que j'entends mieux.
Ah ben, il n'y a pas de problème.
Et puis je lis panoramique alors.
C'est parfait. Alors les amis, donc comme on a dit, on ouvre une nouvelle série de cours sur le livre de Bereshit. Shalom, shalom, shalom. Ah, mais alors si tu es là, ça veut dire qu'il faut qu'on passe en hébreu. T'as dit que tu voulais plus étudier en français. Mais j'ai des arguments pour te convaincre de rester. Bekitsour, nous venons de décider. On vient de décider en ton absence que on commençait un nouveau cycle. Ah, c'est de la contrebande. Qu'on a décidé qu'on commençait un nouveau cycle et qu'au lieu de, d'étudier la paracha, on étudiait le livre de Bereshit en profondeur. Donc, on avancera verset après verset. Donc, on ouvre ce cycle et il est très important de comprendre trois petites introductions avant de rentrer dans le texte. Vous allez dire, j'aurais très bien pu vous faire ces introductions quand on étudiait la paracha. Oui, mais c'est vrai que quand on étudie la paracha, on a envie de sortir une idée de la paracha. Et donc, eh bien, le fil conducteur est moins important. Là, il y a plusieurs choses qu'il faut se mettre d'accord tout de suite. Parce que ce cycle peut nous emmener, je ne sais pas moi, jusqu'à étudier toute la Torah finalement. Une fois qu'on aura terminé Bereshit, on en schémote et je ne sais guère. Il faut comprendre une chose. La Torah, c'est de la prophétie. De la névoie. C'est la parole de Dieu à l'homme. Et ça, c'est un vrai problème. Pourquoi c'est un vrai problème? Eh bien parce que nous vivons aujourd'hui dans un monde post-prophétique. Et donc nous ne savons pas ce qu'est un monde où la présence et la parole divine sont palpables, sont audibles. On ne sait pas ce que c'est. Et je voudrais que vous compreniez bien de quoi on parle avec ce petit exemple. 50 ans, c'est pas grand-chose sur l'histoire humaine. Eh bien, il y a 2500 ans, sur l'échelle de 50 ans, le monde entier a été chamboulé dans les idées. Je m'explique. Il y a 2500 ans, du jour au lendemain, quand je dis du jour au lendemain, je vous dis voilà, sur cette échelle de 50 années, du jour au lendemain, en Grèce, on va passer de la mythologie grecque à la philosophie aristotélicienne et socratique avant lui, qui va en fait se séparer de toute la mythologie, à tel point que Platon dira qu'il ne comprend pas ses grands-parents. Soit ils étaient idiots à se prosterner devant des statues, soit ils ont parlé par parabole et on ne le comprend pas. Au même moment, Mamash, de Platon, Socrate, Aristote, enfin Socrate, Platon, Aristote dans l'ordre, eh bien au même moment, en Inde, il n'y a pas WhatsApp à l'époque, hein. Les gens ne se parlent pas autant qu'aujourd'hui. En Inde, il y a un bonhomme avec du ventre qui arrive et qui va tout simplement annuler toute l'idéologie et l'idolâtrie hindoue de l'époque, et il va créer une religion, une philosophie basée sur la nature et la connexion avec la nature. Il s'appelle Gautama Siddhartha, on le connaît nous sous le nom de Bouddha. Au même moment, Mamash, en Iran, en Perse, c'est pas l'Iran à l'époque, ça s'appelle la Perse, il y a un homme qui se lève, qui annule toute l'idolâtrie iranienne de l'époque, qui s'appelle Zarathoustra, et qui va créer une religion basée sur le bien et le mal. Il n'y a plus le panthéon des dieux, il y a deux dieux, un bon et un mauvais. C'est tout. La morale prévaut. Et en même moment, en Chine, il y a deux bonhommes qui s'appellent Lao Tse et Confuce, qui vont créer le taoïsme et le confucianisme et qui vont annuler toute l'idolâtrie chinoise de l'époque. Et on parle sur une échelle de 50 ans, c'est au même moment. Et qu'est-ce qui se passe chez nous à ce moment-là? Eh bien, chez nous, c'est l'époque de Ezra HaSofer, c'est-à-dire l'époque de Siluk HaShrina, la fin de la prophétie. Donc, si vous voulez, lorsque Dieu est présent dans le peuple juif, nous, on a des prophètes qui parlent, mais le monde entier le perçoit. Alors, certains le traduisent bien, d'autres le traduisent mal. Mais tout le monde ressent la présence du divin. Quand ça s'arrête, eh bien, tout le monde le ressent. Dans le monde entier, il y a un chamboulement des mentalités. Et chez nous, on passe d'un enseignement prophétique à un enseignement rabbinique. OK ? Ce qui veut dire que la difficulté qu'on a de comprendre le texte de la Torah ? Eh bien, c'est d'abord parce que la mentalité générale de l'ambiance de l'époque est fondamentalement différente de la nôtre. Et pour que vous compreniez bien cela, je voudrais vous donner un tout petit exemple. Est-ce que c'est possible d'imaginer que peut-être, aujourd'hui, en 2021, Chas v'Shalom, qu'il y aurait un rabbin X ou Y, pensez à celui que vous voulez, pas à moi, enfin essayez de ne pas penser à moi, qui pourrait tomber dans la faute du Lashon Hara, qui pourrait entendre à la synagogue que quelqu'un parle sur quelqu'un d'autre. Est-ce que ça peut arriver ? Est-ce que vous pouvez imaginer que ça arrive ? Hein, bon, voilà, je vois vos têtes. Par contre, est-ce que vous pouvez imaginer qu'un rabbin, pensez à celui que vous voulez, tout d'un coup se lève un matin, prenne une statue et se prosterne devant ? Ouais, franchement ? Ah, ça paraît quand même gros. Par contre, le coup du Lashon Hara, hein ? Alors que dans le Tanakh, c'est l'inverse. Prenez quelqu'un comme Shlomo HaMelech, qui est prophète, à qui Dieu a parlé, et qui va quand même tomber dans la Avodah Zarah à un moment donné de sa vie. Alors que un roi comme Achav, qui est idolâtre, nous dit le Talmud comment ça fait qu'il a eu une telle réussite au niveau politique, il a gagné toutes ses guerres, quel était le mérite qu'il avait, c'est que ni lui, ni tout son royaume dans son armée, personne ne disait de la Shonara. On vit dans une mentalité différente, dans un monde où celui qui parle pour créer le monde, eh bien, il parle, tout le monde comprend la valeur de la parole. Mais dans un monde où les gens sont coupés de la relation au divin, eh bien, on dit n'importe quoi et ça ne nous dérange pas. Ça va ? Donc, c'est un exemple pour vous montrer à quel point notre monde aujourd'hui est différent de celui de nos ancêtres qui sont marqués dans le Tanakh. Donc, bah, c'est une complication. Manitou disait, si tu veux comprendre ce que c'est que la prophétie, sache qu'il n'y a pas ça aujourd'hui. C'est-à-dire, ne crois pas que le grand rabbin d'Israël, c'est un petit prophète. Non, ça n'a rien à voir. Un rabbin, quelle que soit sa grandeur,
c'est pas bon. En allant voir un rabbin, en expliquant leur cas, qui va réaliser leurs vœux, leur...
Il y a fait. Il y a des gens aujourd'hui qui vont voir des... on appelle ça des babotes.
Je sais pas. Oui.
Hein ? Alors, il faut comprendre une chose. Il y a... Avant que je te dise que c'est des bêtises, tout ça. Bon, avant que je te dise que c'est des bêtises. Il y a des... il y a une différence d'abord entre la prophétie et l'intuition de sainteté. On appelle en langage moderne le Ruach HaKodesh. Aujourd'hui, on dit Ruach HaKodesh pour parler d'intuition qui va dans le sens de la Kedusha. Ça n'a rien à voir avec la prophétie. Il y a des rabbanim qui d'abord sont très intelligents et très sages et qui en plus ont une bonne intuition des choses et Dieu les aide à avoir une bonne intuition des choses. Et donc, quand tu vas leur demander des conseils, et ben, souvent ils te donnent des bons conseils. Mais ça n'a absolument rien à voir avec les charlatans, et je me permets d'utiliser le terme, quel que soit leur nom, on ne va pas citer de nom évidemment, mais de ces pseudo-rabbins qui se font passer pour des grands kabbalistes et des grands diseurs de bonne aventure. Et quand tu vas chez eux, il faut d'abord que tu fasses un chèque de milliers de shekels pour qu'ils puissent te dire que, ah ben tiens, tu as mis des ballerines aujourd'hui. Eh bien, ça veut dire que les hirondelles vont tourner dans le mauvais sens. Et malheureusement, il y en a beaucoup aujourd'hui. Et malheureusement, les gens qui ont des situations compliquées, qui sont dans la précarité, qui ont des problèmes, et en général qui ont peu de connaissances de Torah, ils vont voir ces gens-là parce qu'ils croient que ça va les aider. C'est malheureux, c'est grave que des gens tirent profit de cela. C'est des voleurs. Maintenant, il y a des gens qui sont des gens intelligents et qui sont des gens sages et qui ont des intuitions. On a des innombrables histoires sur le Rabbi Lubavitch. Le Rabbi Lubavitch, il ne demandait pas d'argent quand quelqu'un venait lui poser une question. C'est lui qui donnait un dollar. Donc, c'est quand même autre chose. Le Rabbi Mordechai Eliyahu, quand tu allais lui poser une question, personne, enfin, il n'y avait pas d'argent dans l'histoire. Donc, il est évident qu'il y a des gens qui ont vraiment des bonnes intuitions et qui sont aidés par la Kadosh Baruch Hu, mais ce n'est pas en aucun cas de la prophétie. D'accord ? La prophétie, c'est Ko Amar Hashem. Dieu m'a dit. Ça, c'est autre chose. Il n'y a pas ça aujourd'hui. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose. On va devoir, donc, notre travail va être, eh bien, d'essayer de comprendre ce qui a marqué dans le texte, d'abord aux oreilles de ceux qui ont reçu le verset. Parce que c'est notre deuxième problématique. C'est la première introduction, voilà la deuxième. Les amis, on est en 2021. On va étudier un texte qui a été donné à des gens qui ont vécu il y a 3500 ans. Vous imaginez bien qu'ils n'ont pas, Azov le côté prophétique, dans la vie de tous les jours, ils n'ont pas les mêmes concepts que nous. C'est une évidence. Et donc, il y a des choses qui sont évidentes pour eux, qui sont inconnues pour nous, et des choses qui sont évidentes pour nous, qui sont inconnues pour eux. Le concept, je donne un exemple, le concept de la... C'est une évidence pour eux. Exemple, lorsque dans la Torah, on nous dit qu'on se marie avec une jeune fille, eh bien, il y a un prix pour sa virginité. Ce prix de virginité s'appelle Mohar Abetulot, ce qui veut dire littéralement le prix de la virginité. Le truc, c'est que la Torah ne nous dit pas combien c'est. Et les rabbins vont être obligés de faire des calculs et des explications pour arriver à un prix. Et pourquoi la Torah ne nous dit pas ? Ben parce que c'est la coutume de l'époque, tout le monde le sait. C'est comme ça que ça marche. Mais nous, on ne connaît pas. Donc, la deuxième problématique, c'est que nous sommes face à un travail d'archéologue au niveau, pas seulement de est-ce qu'on va trouver une poterie, mais au niveau des concepts de l'époque. Donc, il ne faut pas oublier que cette Torah a été donnée il y a 3500 ans. Ok. Et la troisième problématique qui se cache devant nous lorsqu'on va commencer à étudier, c'est peut-être la plus ancrée en nous, et la plus difficile à faire partir. Ne m'en veuillez pas, parce que je m'intègre dans ce que je vais dire maintenant. Lorsqu'on ouvre la Torah, on la lit. Alors, Azov le fait qu'on ne comprend pas l'hébreu. On a vécu en France et on ne comprend pas l'hébreu. Ça, c'est un problème technique. Mais le problème technique, il se rattache au problème que j'ai dit juste il y a deux secondes, que même l'Israélien qui comprend l'hébreu, il n'a pas les mêmes concepts que l'époque. Mais nous, on a un problème en plus. C'est que quand on regarde la Torah, on ouvre le texte et on le regarde avec des yeux chrétiens.
C'est la culture.
Ben ouais, c'est Mayesh. On a passé 2000 ans chez les chrétiens. Et vous allez me dire, non, moi c'est pas vrai, j'étais au Maroc. Non, c'est pas vrai. Ben, ok, alors tu le regardes avec des yeux musulmans. C'est-à-dire qu'on a été imbibé de culture chrétienne en Europe. Et c'est comme ça. Ce qui fait qu'on a des concepts qui sont ancrés dans nos têtes, mais qui sont les concepts et les traductions chrétiennes de la Torah. N'oubliez pas que le premier livre qui a été imprimé, la Bible, mais dans sa version, pas en hébreu. Non, c'était, ouais, c'était en allemand. Gutenberg. En latin, je crois. Ouais, en latin, je crois. En latin. Mais donc la traduction chrétienne et la vision chrétienne de la Bible. Donc, en malasot, on a été imbibé de ça, qu'on le veuille ou pas, et donc... Eh bien, vous m'entendrez très souvent vous dire, ben voilà, on nous a dit ça, c'est faux. Ok ? Donc, on est prêt ? Yala ! Alors, je vous invite dès la prochaine fois, maintenant vous connaissez le support il est très simple, le livre de Bereshit. Donc, dès la prochaine fois, si vous voulez, vous amenez avec vous des livres de Bereshit, chacun vos petites roumaches, et on pourra y aller. Alors, je vous propose de commencer par le premier chapitre, au premier verset. Hein, c'est une bonne idée. Si déjà on commence, alors on commence. Et on commence tout de suite avec un problème. Bereshit, bara Elohim, et ha-shamayim, ve-et ha-aretz. Et voilà. Premier verset de la Torah. Première erreur. Et l'erreur, on la connaît tous. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et voilà. On a tous vu une Bible traduite en français. Alors, que ce soit chez les chrétiens ou que ce soit la Bible du Rabbinat. La Bible du Rabbinat, il y a une édition que ça jaune. Je ne sais pas si vous avez avec le texte en hébreu, le texte en français. C'est des juifs qui ont traduit, des rabbins. Alors moi, je dis la chose suivante. C'est honteux. Voilà, je me permets de dire, je ne sais pas qui a traduit, je ne veux pas savoir, ne me donnez pas le nom, comme ça on ne va pas rentrer dans la Shonara. Mais c'est honteux. Parce que de deux choses l'une, soit il ne sait pas l'hébreu, moment-là, ne le fais pas. Donne à quelqu'un d'autre. Soit il sait et volontairement, il met des erreurs dedans et ça, c'est encore pire. Je ne veux pas penser que c'est la deuxième chose. Parce qu'on a tous vu qu'on a traduit en français que Bereshit, ça voulait dire au commencement, en anglais, at the beginning. Mais c'est faux. Nous dit Rashi. Rashi, qui avait le même problème que nous. Il vivait après la prophétie, il vivait imprégné de culture chrétienne et il vivait en France. Donc, autant dire que c'est nous. Bon, il était un peu plus intelligent que nous, mais sinon, à part ça, c'est nous. Et qu'est-ce qu'il nous dit Rashi ? Il dit, bah, hé, j'ai étudié l'hébreu et je vous lis Rashi. Nous dit la chose suivante, Rashi, dans le deuxième Rashi de la Torah. Ein amikra haze omer ela dorsheni que Moshe darshu chazal. Et quoi? Bishvil la Torah shenikret reshit darko ou bishvil Israël shenikret reshit tevoato. Veim bata lefarsho kipshuto kar parsheu bereshit briat shamayim vaaretz. Nous dit Rashi, le mot bereshit en perusho she'en lecha reshit perusho ba'atrala. Rashi te dit, ça ne veut pas dire au commencement. Voilà, point. Maintenant, il t'explique, Rashi. Si tu as envie de faire un cours d'Ulpan, appelle Rashi. Rashi te dit, Bereshit ne veut pas dire au commencement. Pourquoi ? Parce qu'il dit, c'est un état construit. Vous savez ce que c'est un état construit en grammaire ? C'est, bah, par exemple, on va prendre le mot le début. C'est le début de. Ok ? Tu as rajouté une particule. Donc, nous dit Rashi, en hébreu, le tav à la fin, Bereshit, c'est Bereshit quelque chose. Si tu veux dire que c'est au commencement, ça ne veut pas dire au commencement, ça veut dire au commencement de. Et à ce moment-là, nous dit Rashi, donc il manque un mot. Si tu veux me dire que c'est le commencement du monde, tu aurais dû avoir marqué Bereshit Haolam, par exemple. Et donc, nous dit Rashi, donc ça ne veut pas dire au commencement. Donc, il faut effacer tous les au commencement. Alors, ça veut dire quoi ? Eh bien, il dit, ben, ça veut dire Bishvil Reshit. Le bet de Bereshit veut dire c'est pour le Reshit. Et après, il va nous donner une explication. Il dit Reshit, c'est Israël, ou alors Reshit, c'est la Torah, mais c'est pour ça que Dieu a créé le monde. Voilà comment commence la Torah. Pour ce Reshit, bara Elohim et Hashamayim
ve'et Haaretz. Et Reshit, c'est quoi ?
Alors, Rashi va dire que Reshit, c'est soit la Torah, soit le peuple d'Israël. Parce que dans les deux cas, il y a marqué Reshit.
Pour le peuple d'Israël.
Alors, littéralement, Reshit, c'est les prémices.
Oui.
Ok, le début. Qu'est-ce qui a appelé les débuts ? Est-ce que c'est la Torah ou est-ce que c'est le peuple juif ? D'accord ? Rashi nous dit, en fait, c'est les deux. Parce que dans les deux, et la Torah et le peuple juif, on retrouve qu'ils sont appelés Reshit. D'accord ? Mais, attendez, maintenant la phrase devient beaucoup plus claire. Il ne s'agit pas de dire « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre », mais il s'agit de dire « Dans l'objectif de la Torah ou du peuple d'Israël, ou des deux, Dieu créa le ciel et la terre. »
Pour
ça. C'est pour ça que Dieu a créé le monde. Pour nous, le peuple juif ou la Torah, l'homme est chané. Et vous comprenez que ça change tout. Vous savez pourquoi ça change tout ? Parce que si je dis, j'ouvre le texte et je dis, voilà, c'est pour ça que le monde a été créé. Ça veut dire que la Torah répond à quelle question ? Elle répond au pourquoi de l'existence. C'est énorme. Il y a d'autres gens très intelligents qui s'occupent de répondre à une autre question. Ces autres gens très intelligents s'appellent les scientifiques. Et eux, les scientifiques, essayent de répondre à la question « comment ?». C'est une autre question. Je vous rappelle, c'est très important aussi, hein, je n'enlève pas du tout le mérite des scientifiques. C'est très important de répondre à « comment ?». Mais pourquoi et comment, c'est deux choses complètement différentes. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous avez des rabbins comme des parabbins qui essayent tant bien que mal de réconcilier la science et la Torah. Moi, je dis, il n'y a aucun besoin ni de réconcilier, ni de déconcilier. La science et la Torah s'occupent de deux dimensions complètement différentes. Elles n'ont ni à être en accord, ni à être en désaccord. Alors, des fois, ça va tomber que deux infos se recoupent. Bah, très bien, mais on s'en fiche. On s'en fiche. Et à la question de savoir est-ce que le monde a 6000 ans ou des milliards d'années, vous comprenez que cette question-là n'est pas traitée dans la Torah. Si on a dit que Bereshit, ça voulait dire au commencement, alors on va m'expliquer qu'après il y a eu 6 jours et tout ça, bababa. Seulement là, on a compris qu'en fait, ça ne veut pas dire au commencement. Ça veut dire, voilà, c'est pour ça que Dieu a créé le monde. Est-ce qu'on m'a dit quand ça s'est passé, cette création ? Ben non. Donc, qu'est-ce qui m'empêche de dire que ça s'est fait il y a 13,7 milliards d'années avec le Big Bang ? Ça n'est pas marqué dans la Torah. Puisque ce n'est pas marqué dans la Torah, ça ne peut pas contredire dans la Torah. Enfin, contredire la Torah. Ainsi donc, la théorie du Big Bang, ben c'est super. On n'a aucun problème. À aucun moment, on doit dire « Ah ben non, la Torah, elle a dit autre chose. » Puisque la Torah n'en a pas parlé.
Il parle de jour, c'est pour ça après qu'il
y a... Alors, on va y arriver au jour, deux secondes. Mais d'abord, on a compris qu'il n'y a aucune indication temporelle. Rashi, toujours, nous dit « L'elametra, c'est pour t'expliquer, que l'oba atkatu, voit Mikra, l'eorot seder aberia. » La Torah n'est pas là pour te dire l'ordre de la création. C'est pas ça qu'on t'explique. Donc le premier, le deuxième jour, tout ça, c'est pas l'ordre de la création. C'est pas de ça qu'on parle. Lo ba akatuv le lamed seder amukdamim va amoucharim kloum, nous dit Rashi. La Torah n'est pas venue te dire, voilà, ça, ça a précédé ça, qui a précédé ça. Et c'est une évidence, en fait. Je veux dire, astronomiquement parlant, aujourd'hui, au niveau scientifique, ben, ça vous paraît évident que l'herbe et les arbres n'ont pas pu précéder la création du Soleil. La planète Terre, elle s'est créée parce qu'il y a eu la force de gravité de l'astre solaire qui s'est mis en place il y a à peu près 4,5 millions d'années, 5 milliards d'années. Et donc, 500 millions d'années plus tard, bon, je ne me prenais pas à 10 minutes près, hein, mais la Terre s'est formée. Parce qu'il y a eu la force de gravité qui a mis en place tous ces gros cailloux. C'est... Bon, d'accord. Mais donc, c'est évident que ce n'est pas possible que les arbres de la planète se sont créés avant que la planète se crée. Donc, on ne parle pas ici de la cosmogonie. Ce n'est pas du tout le propos de la Torah. Ce qui veut dire que maintenant, il va falloir aborder les 6 jours de la création, pas avec un œil scientifique, mais avec un œil moral. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre de savoir que Dieu a créé ça, ça, ça et ça ? D'accord ? Et puisqu'on n'est pas là pour nous expliquer l'ordre physique de la création, alors il va falloir comprendre alors pourquoi c'est ça avant ça. Pourquoi ça, ça a été présenté avant ça. D'accord ? Ça a l'air ? Donc Bereshit, Bemet, Bara Elohim, Et Hashamayim, Et Haaretz, on a compris, Bereshit, ça veut dire c'est pour ça. Et donc c'est pour ça qu'il a créé. Seulement, si on avait déjà un problème avec le premier mot, je suis désolé, on a un problème avec le deuxième. Vous inquiétez pas, je vous vois venir. Si on passe chaque cours à faire 3 mots, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, d'abord, oui, très bien. Et deuxièmement, je vous rassure.
Des mots qu'on va comprendre.
Alors, pas sûr. Non, je vous rassure. La paracha de Bereshit, on va dire non, les 4 premiers chapitres de Bereshit sont vraiment compliqués parce que, voilà, on parle de concepts métaphysiques. Après, ça sera beaucoup plus fluide. C'est-à-dire, donc ne vous inquiétez pas, mais là, on est obligé, parce qu'on ouvre le bouquin et on parle de choses fondamentales. Donc, Bereshit, on a compris. Mais Bara. Alors ça, vous le savez, parce qu'on l'a déjà vu plein de fois ensemble, donc c'est quelque chose que vous connaissez bien. Bara, ça veut dire, voilà, dehors. C'est-à-dire, c'est la création. Nahon. Mais en vrai, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, avant la création, il y avait quoi ? Il y avait Dieu.
Tout seul.
Il est grand comment, Dieu ?
On ne peut pas définir.
C'est-à-dire, il est infini. Il n'y a pas de limitation. Donc, il prend toute la place. Ce qui veut dire qu'il ne peut pas y avoir quelque chose qui est autre que Dieu. Si on veut que Dieu il crée quelque chose, il faut lui faire de la place. Ce que les Mekoubalim vont appeler Sod Tzimtzum, le secret de l'amincissement, que Dieu s'est rétracté pour laisser la place au monde, eh bien en fait, c'est marqué noir sur blanc dans le terme Bara. En arabe,
Bara.
Ce qui veut dire Dehors.
Dégage.
Dégage.
Bah oui, bara, dehors. En araméen, c'est ce que ça veut dire. D'ailleurs, alors on aimerait tous que notre enfant nous ressemble à 100%. Mais si je vous posais la question, lequel de vos enfants vous trouvez que c'est celui qui vous ressemble le plus ? Ah, c'est pas évident.
Ça dépend physiquement ou moralement.
Ce que tu veux.
Physiquement, c'est mon fils.
Ouais. Mais il a un copier de toi ? Ou il y a des choses qui...
Un grain de beauté du copier comme moi.
Non, mais à part physiquement, je veux dire, c'est un copier-coller de toi ?
Pas tout à fait.
Non, pas tout à fait. Toi, tu dirais quoi ? C'est Rachel, c'est Joël, laquelle elle est toi ?
Laquelle est moi ?
Ouais.
C'est son fils.
Ou lequel ?
C'est Joël.
Ah, c'est Joël. C'est l'op à shoot. C'est nos enfants, on aimerait bien qu'ils nous ressemblent, mais en même temps, elle me la saute. Le fils, comment s'appelle-t-il en araméen ? Bar. Rabbi Shimon, Bar Yochai, Bar Kobalom. Bar, ça veut dire le fils. Pourquoi ? Parce qu'il est extérieur à son père. Ok, donc Bara, ça veut dire Bachoutz. Comme d'ailleurs on dit en français, exister. Exister, c'est la contraction de ex-ist, être à l'extérieur. Donc l'existence même, la création, c'est le fait d'être mis à l'extérieur. De quoi ? Bah de Dieu. Donc ça veut dire que tout le cheminement de la créature, y compris l'homme, c'est de vouloir revenir vers Dieu, revenir vers son origine. Il y a donc un mouvement de teshuva perpétuel, pas parce que j'ai fauté, mais parce que j'ai envie de revenir à Dieu. Donc Bereshit, bara, il nous a sortis à l'extérieur pour nous permettre d'exister. Elohim. Eh ben on est bien avancé.
Ouais.
Vas-y. Alors, Dieu, ce qui est très bien, c'est que quand on parle de lui, eh ben on s'accorde tous pour dire qu'on ne sait pas de quoi on parle. Vous remarquerez que dans le judaïsme, il n'y a pas de théologie. Théologie, ça veut dire la science de Dieu. Aucun rabbin n'a jamais écrit de traité théologique dans le judaïsme. Parce qu'on sait tous qu'on ne sait pas du tout, shum davar, de l'essence de Dieu. Par contre, on peut essayer de comprendre son dévoilement.
Ouais, les chrétiens, ils savent dans leur...
Ils disent, eux, ils ont trouvé une solution. Ah, oui. Ils disent, ve'adavar nia basar. Donc pour eux, c'est très simple finalement. Bon, c'est des bêtises, mais au moins, ils se sont réglés le problème.
Ouais. Ça a l'air... Ils se sont réglés le problème.
Parce qu'ils disent que Jésus, c'est Dieu qui s'est matérialisé. Donc, c'est facile. Ça a l'air... Donc nous, on est tout à fait conscient que l'essence du divin, on ne peut pas l'atteindre. Par contre, le dévoilement de Dieu, ça, on peut. Comment ça s'appelle son dévoilement ? C'est ses différents noms. Le nom de Dieu, c'est la façon dont il se dévoile dans le monde. Et il a plusieurs noms, Dieu, dans le Tanakh. Chaque nom, c'est un autre dévoilement de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Quand il y a marqué Yud Kei Vav Kei, ce n'est pas la même chose que quand il y a marqué Elohim. C'est pas la même chose que quand il y a marqué El Shaddai, Hashem Tsevaot, et ainsi de suite. Donc chaque dévoilement nous apprend quelque chose. Elohim, c'est quoi ce dévoilement de Dieu ? Eh bien, nous dirons nos sages plus tard que Elohim, c'est la même gematria, la même valeur numérique que le mot Hateva, la nature. En d'autres termes, Elohim, c'est le dévoilement de Dieu par l'intermédiaire des forces de la nature. Forcément, on est en train de parler de la création du monde. Donc, mais ce n'est qu'un dévoilement, ce n'est pas tout. C'est là où s'est trompé notre ami Barour. Ben oui, tu te rappelles ?
Bon,
il était à Amsterdam, il était content. Mais Barour Spinoza, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, c'est quoi Dieu ? Alors, Dieu égale la somme des forces de la nature. Tu prends toutes les forces de la nature et tu arrives à Dieu. Non. Si tu prends toute la somme des forces de la nature, tu arrives à Elohim. Mais nous, qu'est-ce qu'on a dit à Yom Kippour ? On a dit à Hachem ou à Elohim ? C'est-à-dire que, oui, Elohim est compris dans Hachem. Mais il n'y a pas que ça. Mais voilà. Alors, si je voulais me la péter, je dirais des mots extrêmement savants. Je dirais que Elohim, c'est le dévoilement de Dieu dedans. Mais Dieu, il est également dehors. Alors comme ce sont des mots que tout le monde ne comprend pas forcément dedans et dehors, je vais utiliser des mots plus simples. Dieu n'est pas seulement émanant, il est également transcendant. C'est-à-dire que Dieu, il n'est pas seulement dans ce monde, mais il est également au-delà. C'est-à-dire. Donc là, Bereshit bara Elohim et. Et, on nous a appris quand on était à l'école, ça veut rien dire. On traduit pas. Nachon, ça veut rien dire, mais ça veut tout dire. Et, c'est mi alef atav. C'est-à-dire qu'à chaque fois que dans la Torah qui est marqué et, ça veut dire qu'il y a quelque chose de shalem, d'entier. Hashamayim. Ba, 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 ba. Alors, il a créé quoi? Le bleu là-haut?
Les cieux.
C'est quoi les cieux? C'est l'espace?
Les étoiles,
la stratosphère?
Je sais pas.
L'atmosphère? C'est-à-dire que quand on est sur la Lune, on est Bachamaïm, on n'est plus Bachamaïm. On est
au-delà.
Armstrong, il n'est pas dans la. C'est plus Chamaïm. Donc Chamaïm, c'est uniquement la couche d'ozone?
Non, non, c'est au-delà.
C'est jusqu'où alors?
Au-delà,
c'est le système solaire.
Il y a d'autres systèmes également.
D'accord, donc quand on est dans la galaxie d'Andromède, on n'est plus Bachamaï.
C'est infini.
Ah, il y en a d'autres des systèmes.
C'est infini là aussi.
Ah, donc tu dis Chamaïm, c'est l'univers.
Voilà. Encore plus.
C'est l'univers.
Pas la Terre.
C'est pas la Terre.
Non.
Alors, pas chouette à votre histoire. Chamaïm, d'abord, c'est un pluriel. Pas de problème qu'on me dise les cieux, mais moi mon problème c'est quand on traduit un mot compliqué en hébreu par un mot qui veut rien dire en français, parce que ça ne veut rien dire les cieux. Je veux dire, aujourd'hui, je ne vais pas vous embêter, mais on sait au niveau scientifique qu'il n'y a rien de bleu là-haut.
Bien sûr.
C'est uniquement la réfraction de la lumière du soleil, machin. Donc, c'est-à-dire que c'est où ce Chamaïm dont on parle? Eh bien, en fait, Chamaïm, il ne s'agit pas ici du tout du bleu, de la stratosphère ou quoi que ce soit. Il s'agit de l'unité des valeurs. Ben voilà autre chose. Chamaïm, nous dit la Gemara, c'est les lettres qui forment les mots Esh Vemaïm.
Tu peux me dire pourquoi ils ont écrit tellement compliqué?
Tu te rappelles ce que j'ai dit au début? Nachon, c'est compliqué pour nous, parce que pour nous, ça ne nous parle pas. Mais ce sont des concepts qui étaient évidents à l'époque. Et Agave, quand on gratte, nous aussi on les connaît. Parce que ce que je suis en train de te dire, que Chamaïm, c'est l'unité des valeurs. Je te rappelle qu'il y a des gens que tu connais très bien, moi aussi, qui étaient des gens d'un courage à toute épreuve. Rien ne leur faisait peur, et certainement pas les légions de Jules César. Mais ils n'avaient peur que d'une seule chose. C'est que le ciel ne leur tombe sur la tête. Alors quoi, nos ancêtres les Gaulois étaient débiles, ou il y avait une perception très profonde de ce que représentent les cieux? C'est-à-dire que dans toutes les cultures antiques, les cieux sont représentés, d'ailleurs vous le savez tous, les mythologies c'est quoi? C'est quoi toutes les divinités? C'est d'un côté des forces de la nature, et de l'autre côté des qualités morales. C'est-à-dire qu'on a, d'un côté, on a Poséidon, on a le dieu de l'océan, force de la nature, mais on va avoir également Athéna, la déesse de la sagesse et de la guerre. On va avoir également, vous allez avoir Zeus, le dieu du ciel et de la foudre, mais on va avoir également la déesse de la colère, on va avoir la déesse de l'espoir, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on a ce concept qui est très clair à l'époque, qu'il y a beaucoup de valeurs là-haut. Le grand problème de la mythologie, c'est qu'à chaque fois, on n'en sert qu'une de ces valeurs. Shamaim, nous disent nos sages, c'est Esh Vemaim. Or, dans ce monde, ce sont deux valeurs qui ne coexistent pas. Soit le feu évapore l'eau, soit l'eau éteint le feu. Donc, c'est quoi Chamaïm? Eh bien, c'est l'unité des valeurs. C'est là où peuvent coexister ces choses qui, ici-bas, ne peuvent pas être ensemble. Mais il y a un endroit où, oui, ça peut coexister. Et c'est, je ne vous apprends rien en vous disant que le motto du judaïsme, c'est le Echad, la notion d'unité. Eh bien, il fallait d'abord mettre ça en place pour qu'après on mette en place Ve'et Haaretz. C'est-à-dire que d'abord, il faut avoir un concept d'idéal. Cet idéal, c'est Shamaim. Et maintenant qu'on a l'idéal, Efshar Gam Ve'et Haaretz.
Ça, c'est simple.
Voilà. Haaretz, c'est simple. Jusque-là,
ça va. Alors.
Seulement, tu te rappelles, je crois que je vous l'avais déjà dit, qu'un jour, on était, je n'étais pas encore le rabbin à la choule, donc souvent, je passais les fêtes chez mes parents. Et je ne sais plus quel âge il avait. Je crois que c'est. Enfin, je crois même que c'est ma fille qui a demandé, ce n'est pas mon fils. Je crois que c'est Mouna qui avait dit ça. Qu'on était, voilà, sous côte, on était chez mes parents. Et Shabbat Bereshit, on étudie ensemble. Bereshit, Bara. En plus, elle était au Gan Chabad, donc elle apprenait les psukim. Et donc, vous savez comment ils font les Chabad? Bereshit, Bara. Elohim, et ta shamayim, et ta aretz.
C'est comme ça que ça rentre.
Ah, ben bien sûr. Et à ce moment-là, on est à Metz, Ir HaKodesh. Et à ce moment-là, ma fille, elle me regarde, elle me dit ah, papa, j'y suis là. Ma, matai barachutz laaretz. Quand est-ce qu'il a créé la France? Dans l'esprit d'une jeune fille de 5 ans qui a grandi en Israël, quand on dit « Haaretz », c'est Israël. Mais est-ce que c'est seulement dans le concept de l'esprit d'une fille de 5 ans qui a grandi en Israël? Ou c'est le concept de la Torah? Dans la Torah, quand il y a marqué « Haaretz », ça veut dire « Haaretz Israël ». Donc dans ce verset, de quoi on parle? Est-ce qu'on parle de toute la planète? Non. On parle d'Eretz Israël. Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. On a dit que Shamayim, c'était l'unité des valeurs. Eh bien, par quel moyen on peut y arriver à cette unité des valeurs? Par Eretz Israël. Fastoche, le premier chapitre et le premier verset.
Si on prend ce que vous disiez tout à l'heure, en formule de l'époque, est-ce qu'à l'époque... Et quand je dis à l'époque, je n'arrive pas à la situer à cette époque. Il y avait cette connaissance de l'univers tel qu'il
absolument
est
pas.
Dans sa globalité.
Absolument pas.
Voilà, donc ça ne pouvait être que Eretz Israël.
Ah non, attention.
C'était leur contexte.
Attends, deux secondes. Ils savent qu'il y a d'autres pays.
Oui,
quand même.
De façon limitée.
Ils ne connaissent pas les Amériques et il y a de fortes chances qu'ils ne connaissent pas la Chine. Je ne te parle pas de l'Antarctique. Mais il y a quand même, je veux dire, à l'époque de Moïse. Donc à l'époque de Moshe, où la Torah est donnée, donc il y a 3500 ans, l'Égypte. Il y a quand même, non mais pas seulement l'Égypte, je veux dire, il y a quand même une connaissance d'un monde qui s'étend de démons Ourals, de l'autre côté, ça va jusqu'à à peu près la frontière avec l'Inde, et de l'autre côté, ça va jusqu'en Europe. C'est-à-dire qu'il y a des caravanes, il y a des gens qui voyagent, il y a des choses qui se passent. Donc, certes, il n'y a pas la connaissance du globe terrestre comme on le connaît aujourd'hui, mais il n'y a pas que la terre d'Israël dans l'histoire. D'autre part, les Bnei Israël le savent très bien. Leur famille ne vient pas d'Eretz Israël, puisque Abraham va naître en Mésopotamie, va vivre une grande partie de sa vie en Mésopotamie d'abord et ensuite à Haran. Donc ça veut dire que et après on sera en Égypte. Donc on connaît très bien la dimension qui est pas Eretz Israël. Donc quand on dit Avala Haaretz, c'est la terre d'Israël, c'est parce que c'est comme ça qu'elle a toujours été appelée dans notre lexicon à nous. C'est-à-dire Abraham, Yitzhak, Yaakov, les pères fondateurs de la patrie d'Israël, enfin de la nation juive, parlent de la terre d'Israël comme étant Haaretz, puisque c'est comme ça que Dieu la présente. Donc, lorsque les Bnei Israël sortent d'Égypte et reçoivent la Torah, quand on leur dit Haaretz, ils savent très bien à quoi ça fait référence.
Bien qu'ils ne soient pas encore
à la rentrée. Et que, pour la plupart d'entre eux, pour ne pas dire tous, ils ne l'ont jamais vu. C'est les résidus d'un espoir. Mais j'ai envie de dire, ça, c'est quelque chose qu'on connaît très bien. Puisque vous et moi, on a fait notre alia. Alors, peut-être que vous étiez déjà venus en Israël avant. Avant l'Alia, mais je veux dire, très souvent, C'est l'espoir des 2000 ans de nos grands-parents et arrière-grands-parents qui nous ont parlé de ce rêve d'Israël qui a fait qu'aujourd'hui on est revenu en Israël. Donc ça, c'est quelque chose que d'après, on peut très bien s'identifier. D'accord ? Donc, Bereshit, oui.
Les nations ne reconnaissent pas ça.
Que quoi ?
Ne reconnaissent pas, arrête.
Mais tu veux que je te dise ? Les nations ne reconnaissent pas. Mais tu sais pourquoi ? Parce que les premiers qui ne le reconnaissent pas, c'est nous. C'est-à-dire que les nations, on leur a chamboulé le monde entier il y a 70 ans, et on n'arrête pas de leur dire qu'on n'a pas fait exprès. Et on n'arrête pas de leur dire « Non, mais en fait, on veut être comme tout le monde. » Et non. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas prêt à rendre des territoires, donner des territoires pour faire la paix ? Mais parce que c'est la terre que Dieu nous a promise. Point. Il faudrait peut-être le dire. On ne le dit pas. Il ne faut pas s'étonner que les autres non plus ne le disent pas.
Ils le savent, pour ça, les
antisémites. Mais ils le savent très bien.
Les antisémites disent, attention, en retournant Palestine. Ils...
Mais je voudrais vous rappeler ici une interview absolument surréaliste de Fox News à l'époque des accords de Camp David sous la présidence de Bill Clinton. Donc on parle accord d'Oslo, hein, attention. La journaliste de Fox News, qui est protestante, je ne me rappelle plus son nom, il faut que je retrouve, elle dit au président, « Mr. President, comment pouvez-vous... Bon, » vous savez tous que Fox News sont un petit peu plus à droite que Bill, mais la question reste quand même forte. Elle dit, « Comment pouvez-vous prêter main forte aux accords d'Oslo, à donner des terres ?» Vous savez bien que la terre d'Israël appartient au peuple juif, tel que c'est marqué dans la Bible. Et vous avez prêté serment en devenant président sur la Bible, sur la Sainte Bible. Et il répond, ah mais tout à fait, mais c'est pas moi, c'est eux. C'est les juifs qui veulent donner. Bon ben moi, j'aide au processus, mais c'est pas de ma faute.
C'est extraordinaire.
Bien sûr. Si tu veux que je te dise. Donc tu dis, le jour où nous on sera convaincus, t'en fais pas, on arrivera à convaincre les autres. Par exemple, je n'ai pas écouté tout le discours de notre Premier ministre à l'ONU. Mais tu avais le droit de dire, moi je ne parlerai pas pendant Yom Tov. Tu pouvais dire ça. Tu vas me dire que quoi ? Que l'ONU ne l'aurait pas accepté un jour avant ou un jour après ? Tu peux venir avec une amira.
Il n'a pas parlé de Yom
Tov, non ? Non. Je dis, est-ce qu'il vient et il dit c'est pour ça que je le fais pas? Est-ce qu'il vient avec un message qui est
hein? On a montré qu'il est en
papier. Oui, oui. Bon prochain. Oui. Bah attends, il est quand même religieux notre Premier ministre. Hein, n'en déplaise à certaines personnes. Mais je dis, est-ce qu'il vient avec ce message là? Non.
C'est pas son.
Il le représente, il le dit pas. Parce qu'il est la voix du peuple juif.
Non, il est la voix de l'État d'Israël.
C'est pareil. C'est exactement pareil.
Pas dans la tête de tout le monde, je pense.
Ah oui, vous avez raison. Pas dans la tête. Attendez. Alors, là, pour le coup, je ne suis pas d'accord. Bon, c'est un débat qui n'est plus du cadre de la Torah, mais je pense que vous avez tout à fait raison que tout le monde n'est pas d'accord avec ça dans le peuple juif. Mais au sein de l'extérieur, que ce soit pour les pros ou les anti-sémites, c'est une évidence que ce qui se passe en Israël a une répercussion sur le monde juif aussi à l'extérieur. Comment ça se fait que lorsqu'il y a une opération à Gaza, c'est la synagogue à Sarcelles qui prend ? Je caricature, évidemment. Mais il est évident que ce qui se passe depuis 70 ans dans la résurrection de l'État d'Israël, du peuple juif, eh bien, ça a une portée sur le peuple juif tout entier. Je dirais même que pour Israël, c'est la loi. La loi du retour montre bien, et je ne rentre pas dans les problématiques de la loi du retour, mais la loi du retour montre bien que l'État d'Israël se voit comme étant le porte-parole du monde juif tout entier. C'est l'État d'Israël. Non, c'est très important. La symbolique des mots est très, très, très importante. Vous savez que lorsqu'on a créé l'État d'Israël, parmi tous les débats qu'il y a eu, bah, un des débats, ça a été, ça sera quoi le nom ? Comment on va l'appeler, cet État ? Et il y a plusieurs propositions qui ont été amenées, qui n'ont pas été retenues. Par exemple, Eretz Yehuda.
Si ça s'était appelé Palestine, il n'y aura pas de Palestine.
Peut-être on peut garder le mot Palestine. Yehuda, il y a 2000 ans, le royaume, il s'appelait Yehuda, la Judée. Donc pourquoi est-ce qu'on ne la rappellerait pas comme ça ? Au final, vous le savez, Ben Gurion a dit Anachnu makimim baza, chizim baza, al hakamat medina yehudit be'eretz Yisrael. Hi Medinat Israël. Le nom de l'État, ce n'est pas Israël. Medinat Israël. Ce qui veut dire en français l'État d'Israël. Oui, mais on fait référence à quoi quand on dit Israël ? Au peuple d'Israël. Donc oui, d'après la loi et le statut officiel de ce pays, c'est l'État du peuple d'Israël. Y compris de mes parents qui sont encore à Metz.
Bien sûr.
C'est pourquoi un autre débat avait été posé, c'est est-ce qu'on donne le droit de vote à la Knesset, à tous les juifs du monde ? Alors, c'est un débat qui avait été... Des fois, ça revient sur le tapis. Bon, heureusement que, pour l'instant, on ne le fait pas, parce que ce serait trop compliqué à gérer. Quoi. C'est impossible de gérer un truc comme ça. Mais l'idée est vraie.
Surtout avec les Juifs.
Oui, surtout avec les Juifs. T'as raison. Mais l'idée est vraie. Donc, non, c'est impossible. Donc, t'inquiète pas, c'est pas prévu.
Quand on est en France, on connaît rien.
Oui, non, mais au-delà de l'ignorance, comment tu veux comptabiliser des voix et machin ?
Ça, c'est du technique, ça.
Ouais, enfin, c'est quand même compliqué. Je te rassure, tout le monde en Israël ne connaît pas non plus ce qui se passe dans le pays pour voter. Mais tout ça pour te dire qu'il était, enfin, pour moi, ça ne fait aucun doute que l'État d'Israël et donc son premier ministre, c'est le porte-parole du peuple d'Israël tout entier. Et je suis persuadé que le monde entier nous voit comme ça. Je tiens à vous rappeler simplement que, encore une fois, mais c'est évident, et je vous rappelle que lorsqu'on arrive à l'ONU et que trône au milieu de tous les drapeaux du monde le drapeau d'Israël, je veux quand même vous rappeler que ce drapeau d'Israël n'a rien d'israélien, en fait. Ouais. C'est-à-dire que ce drapeau d'Israël, il est purement juif. C'est-à-dire non seulement tu as les bandes du Talit, ensuite tu as le Magen David qui fait référence à quoi ? Eh bien, au symbole juif de référence par excellence dans le monde entier, le seul qui est présent dans toutes les communautés du monde, encore plus que la menorah, et la couleur bleue qui, d'après la Mishnah, nous rattache à Dieu. Tu aurais pu mettre, je ne sais pas moi, la carte d'Israël sur le drapeau. Il y a plein de pays qui ont sur leur drapeau la carte de leur pays.
Comme le drapeau chypriote.
Ah, je ne connais pas bien. Il y a la carte du pays.
Il y a la carte.
Eh bien, tu vois, donc c'est faisable. Donc, on ne l'a pas fait. Parce qu'on est conscient que ce drapeau, ce pays, eh bien, c'est le pays du peuple juif. Enfin, pour moi, ça me paraît évident, et je pense que pour les goyim aussi, c'est évident. Il y a une partie de juifs aux États-Unis, en France, principalement sur le côté gauche de l'échiquier politique, qui pensent que non. Ça veut dire. C'est toujours
que
l'État d'Israël, c'est l'État d'Israël, que ça ne m'engage pas. Ça ne m'engage pas. Je pense qu'ils ont tort, je pense qu'ils se trompent. Voilà, il y a des Israélites, je ne pense pas que ce soit le bon chemin. Mais bon, ça dure, c'est ce que je t'ai dit. Donc tout ça pour dire, Rabotai, que Bereshit, bara Elohim, et Hashamayim, et Haaretz. Pour les prémices que sont la Torah et le peuple d'Israël, entre guillemets, vous avez compris, la Torah, c'est le moyen que Dieu a choisi pour se dévoiler, et le peuple d'Israël, c'est l'intermédiaire qu'il a choisi pour se dévoiler. Donc, Bereshit, pour ça, Dieu a fait de la place au monde, il a mis comme idéal l'unité des valeurs, et cette unité peut se réaliser par l'intermédiaire de l'Israël.
Qu'est-ce que ça regroupe, ce terme d'unité des valeurs ?
Unité des valeurs, eh bien, c'est pratiquement aussi infini que l'infini. C'est-à-dire que l'homme est pétri de morale, et donc de valeurs morales, qui vont tout le temps se contredire l'une et l'autre. Je donne un exemple. Il y a un truc qui s'appelle la bonté. La bonté est complètement anti la justice. C'est deux valeurs très importantes, mais qui ne vont pas ensemble. Alors, des fois, on s'arrange. Mais quand on s'arrange, c'est qu'on n'est ni vraiment là, ni vraiment là. Ce qu'on appelle un arrangement à l'amiable, un compromis. Mais le compromis, c'est ni vraiment la justice, ni vraiment la bonté. Et donc, on est obligé d'arriver à une unité des valeurs. Dans ce monde, c'est très difficile. Et le rôle du peuple juif, au-delà de tout le reste, c'est d'arriver à montrer qu'il y a une unité des valeurs.
Il y a une possibilité.
Il y a une possibilité de réunir tout ça. Pourquoi ? Bah, quand tu te connectes à celui qui a émis toutes les valeurs, alors tu peux arriver à cette unité-là. Alors, c'est un travail, je ne dis pas qu'on y arrive pour l'instant. Mais c'est ça l'idéal. Et donc, c'était fondamental de présenter la Torah par cet idéal de l'unité des valeurs. C'est ça ? Donc, on a compris le premier verset du premier chapitre du premier livre de la Torah. Oui ?
Je suppose que vous continuez par la Torah.
Non.
Le verset d'après, c'est la Haaretz Haitah
Tohu. Oui.
Dans de quelle Haaretz on parle ?
C'est une excellente question qu'on sera obligé de dévoiler la semaine prochaine.
Je
la semaine prochaine. Eh bien, écoute.